given you there all some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Série L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, rêveuse Émilie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Chapeau sur la tête et son parapluie à la main. Fait rire sous cap Auguste Descours. Il l'a fait asseoir sur un canapé au salon. Et s'assoit sur une chaise en face d'elle. Agathe ne devrait pas avoir besoin de gouvernante, mais je n'ai pas bien le temps de m'occuper d'elle, mes affaires, les voyages. C'est pour cela que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse la surveiller un peu, voir ses fréquentations et tout, quoi. Elle sort du pensionnat et est un peu naïve. Elle ne connaît pas très bien le monde. D'après ce que l'on m'a dit de vous, je suis sûr que je peux me fier à vous. Je vous remercie, monsieur. Cet été, cela ne vous gêne pas d'accompagner Agathe à Biarritz? Non, monsieur, j'en serai enchanté. Auguste regarde sa montre. Oh, je dois partir, excusez-moi. Ils se lèvent tous deux. Attendez, restez ici. Je vais vous présenter Agathe. Et il se dirige vers la sortie de la pièce. Une fois qu'il est sorti, elle regarde autour d'elle. Beau salon. Ils sont restés classiques, Louis XV. Ils ont eu raison. Avec la maison, il n'y a que cela qui irait. Le moderne choquerait trop. La porte s'ouvre. C'est l'oncle et la jeune fille. Elle est aussi grande que lui, mince, le visage rieur, cheveux bruns, coupés à la mode de l'époque, c'est-à-dire 1925, et porte une petite robe courte jaune.
Mademoiselle Émilie, je vous présente Agathe.
Mademoiselle, madame,
j'espère que vous entendrez bien toutes les deux.
Que monsieur n'ait pas de crainte, les jeunes filles m'adorent.
Bon, eh ben, je vous laisse. Au revoir, madame Émilie.
Au revoir, monsieur. Il embrasse Agathe et sort.
Mon oncle n'a pas eu le temps de vous montrer votre chambre. Je vais vous la montrer.
Oui, je veux bien.
Elles sortent du salon. Hall d'entrée et escalier qui monte aux étages. Elles le prennent.
Vous êtes encore étudiante ?
Oui, j'ai passé mon bac et je vais m'inscrire l'année prochaine prendre des cours de philosophie.
Philosophie ? Mais n'est-ce pas une chose plutôt pour les hommes ?
Non, pas du tout. Et puis nous sommes au XXe siècle.
Elle monte jusqu'au troisième.
Quels sont vos loisirs ?
Le tennis, la voile, la danse, tout ce qui bouge.
Vous avez des camarades ?
Oui, bien sûr.
Un en particulier ?
Non, ils ne sont pas assez sérieux, et puis je ne les connais pas suffisamment de longue date. Je ne les voyais que pendant les vacances scolaires. Après la mort de mes parents, j'avais 10 ans. Mon oncle m'avait mise en pension et j'ai...
Ça a dû être dur pour vous.
Oui, assez. Après la mort de ses parents, se retrouver au milieu d'inconnus, et en plus de mon chagrin, j'étais très timide.
Ma pauvre petite,
voilà votre chambre.
Elle ouvre la porte. C'est une pièce mansardée assez grande et jolie. Les tapisseries, les rideaux et le couvre-lit sont tapissés en tapisserie blanc avec de petites fleurs roses. Un lit à une place, une armoire, une chaise, une petite table.
Et derrière le paravent, vous avez une table de toilette.
Merci, c'est très beau.
Vous n'avez pas de bagages ?
Je les ai laissés dans l'entrée. Je vais aller les chercher.
Bien, je vous laisse chez vous.
Une femme de 35 ans. Elle est grande, maigre et sèche. Ses cheveux grisonnants sont en chignon. C'est une brave femme qui n'a été mariée que 3 mois. Tout juste eu le temps de consommer son mariage et tout de suite, son mari est tombé malade des poumons.
On peut dire qu'elle n'a pas eu de chance.
Elle n'a pas eu le temps d'être une femme. Son caractère est celui d'une vieille fille. Veuve, elle est retournée chez son père et après sa mort, elle s'est placée comme gouvernante dans différentes familles. C'était des petites familles bourgeoises, mais là c'est autre chose.
Émilie a comme famille un beau-frère, une belle-sœur et un neveu. Une semaine après son engagement chez les Descours, elle va les voir. La rue de ses maîtres qui se trouve au Vendôme à Lyon et se dirige à pied vers la place Saint-Honoré. Émilie aime marcher. Cela lui permet de rêvasser. Arrivée place Saint-Honoré, elle prend la rue du Sergent Blandan et entre dans un vieil immeuble au numéro 24.
Ouais.
L'allée est sombre, sans mauvais, les escaliers sont étroits. Elle sonne au premier. Lui ouvre un homme, petit, maigre, à moustache, cheveux bruns, et semble avoir dans les 40 ans, porte un pantalon gris, tenu par des bretelles et une chemise sans col. Bonjour, Jules.
Bonjour, Émilie.
Il la fait entrer. L'appartement est sombre. 3 pièces, une salle à manger, 2 chambres et la cuisine. Les meubles sont disparates, tout sent le pauvre, mais pas vraiment la pauvreté, plutôt la modestie. L'appartement et les meubles semblent vouloir dire « Nous sommes simples, pas de chichi, mais pas pauvres. » Ce décor, qu'elle connaît plutôt par cœur, surprend Émilie. C'est comme si elle venait de la lumière et se trouvait tout d'un coup dans une cave. Dans la salle à manger, se trouve assis à une table, le regard sec, les cheveux gris en chignon, maigre, habillé de noir, la sœur d'Émilie, Denise. Elle astique son argenterie. Quelques couverts disparates reçus en héritage.
Ah, c'est toi, Émilie ?
Oui, c'est moi.
Émilie se penche pour embrasser sa sœur et s'assoit à côté d'elle. Et Jules en face d'elle. Émilie dit joyeusement en mettant la main à plat sur la table.
« Ça y est, j'ai trouvé une place. »
Ah.
Dit Denise en continuant à frotter.
Oui, et une bonne. Dans une de ces familles, si vous voyez ça.
Un luxe.
Une grande maison. Des escaliers en marbre. Des pièces. Et meublé. Oh là là, avec ces meubles. Et mes nouveaux patrons, Jean. Comme tout, bien distingué. Lui est dans leurs affaires, il voyage beaucoup. Elle, sa nièce, c'est moi qui dois m'occuper d'elle. Elle sort de pensionnat chez des sœurs, elle fait du tennis et tout quoi. J'espère qu'ils vont te payer correctement. demande Denise.
Pour cela, ne t'en fais pas.
Et puis, je suis bien logé. J'ai une grande et belle chambre, toute rose.
L'on sonne à la porte d'entrée. Jules se lève pour aller ouvrir.
Denise dit à Émilie, « Ne t'estique donc pas tant. Ce n'est qu'une place de domestique que tu as. Non, de gouvernante. C'est la même chose. Je me demande si tu ne ferais pas mieux de chercher une place dans une usine.
Pour être ouvrière, il ne manquerait plus que ça. »
Arrive dans la salle à manger le père avec un jeune homme. C'est Eugène, leur fils, un jeune homme de 18 ans, grand, mince, les cheveux châtains, le visage fin, encore enfant. Il porte un costume marine et une serviette en cuir à la main.
« Bonjour, tante. »
Il se baisse pour l'embrasser.
« Bonjour, mon grand. Que tu es beau, Eugène, la jeune fille qui t'aura. »
La mère les regarde tous deux et dit
« Ne fais donc pas tant de compliments à ce garçon. Tu lui mets des idées en tête. Par ta faute, il ne veut plus être instituteur, mais ingénieur des mines, comme s'il était un fils des bourgeois. »
« Mais il en a l'allure, ma chère.
Tu sais, j'ai trouvé une place de gouvernante chez une jeune fille, mon cher, une jeune fille, si tu voyais, elle est si belle. » Une vraie fée. Elle n'attend plus que toi pour se réveiller.
Eugène sourit.
Je te la ferai connaître.
Le père dit irrité.
Mais qu'est-ce que vous chantez là, ce jeune homme?
La vérité.
Arrêtez de divaguer. Eugène, va dans ta chambre. Nous disons dans une demi-heure.
Eugène obéit et sort de la pièce.
Émilie haut ses épaules. « Vous le traitez comme un enfant. »
Le père la regarde et lui dit
« C'est plutôt toi, avec tes histoires de dormir debout. »
« Nous verrons bien qui a raison, mais moi je crois en lui. »
« Nous aussi, mais d'une façon lucide. »
« Il suffit d'un coup de pouce, mon cher, pour qu'il puisse devenir quelqu'un. »
dit Émilie.
Eugène est dans sa chambre, petite pièce sans attrait. Il est allongé sur son lit et fait vagabonder ses pensées. C'est un rêveur. Il suffit d'un mot pour qu'il brode toute une histoire. Il se demande comment doit être cette jeune fille si bien.
Émilie assiste à la soirée que donne Agathe.
Elle en est toute excitée.
Et malgré qu'elle soit mise à l'écart, elle a l'impression d'être dans un rêve.
C'est exactement comme cela que je m'imaginais.
Non merci, mes amis m'attendent.
Elle se trouve penchée à la balustrade du premier étage. Elle voit Agathe aller, venir, courtisée par des jeunes gens.
Ma petite fée,
non,
que tu fais les ravages. Ils sont beaux ces jeunes gens. Lesquels préfères-tu?
Un domestique s'avance vers elle et lui dit
« Mademoiselle aimerait que vous puissiez aider à servir les boissons. »
« Oh oui, bien sûr !»
Cette demande la surprend et la triste un peu, mais elle se dit que souvent, une maîtresse de maison sert les invités de sa fille. Elle suit le domestique.
La musique, la foule la
ça
surprend.
La musique.
Elle est en plein dans la fête. Ce n'est pas
allez,
comme en haut. Elle peut voir l'orchestre, alors qu'en haut, elle ne pouvait pas.
On lui donne une place au buffet, dans un angle.
Elle sert ce qu'on lui demande comme boisson.
Je voulais vous demander, Nicole, ce que vous pensez.
Oui, je vous écoute.
C'est à propos de Dick.
De Dick ?
D'après vous, serait-il possible que...
Au bout d'un quart d'heure, elle s'est habituée à la situation et joue son rôle comme si elle était la maîtresse de la maison. Tout en servant, elle suit d'un air attendri Agathe, entourée de jeunes gens qui tourbillonnent autour d'elle comme des papillons autour de la flamme. Deux jeunes gens qu'elle voit de dos discutent entre eux. Le premier, qui aura Agathe, paiera un repas à tous les autres. Qui crois-tu qu'il aura? Je crois que Jean-Jacques a sa chance. Et dire qu'il va avoir cette petite fleur vierge. Mais le dit est rouge de colère. Et dire que ma petite Agathe n'est au courant de rien. Ils ne sont pas dignes de ma petite fée. La soirée, dans sa chambre, dans son lit. Il n'y en a qu'un qui serait digne d'elle. C'est mon Eugène. Eugène, comme je serais heureuse qu'il puisse être aimé par elle. Je ne serais plus la gouvernante. Je serais la tante. J'habiterais au deuxième. Je serais choisie. Oui, choyée. Mon Eugène serait heureux, et Agathe aussi. Mais comment les faire rencontrer ? Le lendemain matin, elle téléphone à l'épicier pour sa sœur et l'épicier est allé la chercher.
« C'est Émilie. Figure-toi que j'aurais besoin d'une de tes paires de gants. Pourrais-tu me les prêter ?»«
Oui, lesquelles ?»«
Les blancs.
Viens les chercher quand tu voudras.
Justement, je ne peux pas me déplacer. Mais peut-être me les faire envoyer par Eugène ?
Oui. Que se passe-t-il ?
Rien. Je dois accompagner à une cérémonie la petite et j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas me déplacer.
Voilà une heure qu'Émilie, du haut de l'escalier, épie le hall d'entrée. L'on sonne à la porte. Le domestique va ouvrir. C'est Eugène. Vite, Émilie court dans la chambre d'Agathe. Elle est à sa coiffeuse. Elle s'approche d'elle.
Qu'avez-vous, Émilie ?
J'ai perdu mon carnet d'adresse et je viens voir si mademoiselle ne l'aurait pas trouvé.
Non ?
Vous l'avez demandé au domestique ?
J'aimerais mieux pas. Je ne veux pas qu'une personne indiscrète ne le lise.
Où vous l'avez vu la dernière fois ?
Je ne sais plus. Je crois au salon ou à la bibliothèque.
Eh bien, allez-y.
Je veux bien aller à la bibliothèque, mais je n'aime pas aller au salon.
Bien.
Je vais aller voir au salon, Émilie.
Que vous êtes étrange.
Non, c'est le fluide. Certaines pièces me font froid.
Agathe se lève.
Mon père m'avait dit la première fois qu'il vous avait vu. Voici Mary Poppins.
Cela ne vous choque pas, j'espère.
Oh non, j'aimerais tant être votre fée.
Agathe l'embrasse. Elles sortent toutes deux de la chambre. Agathe entre dans le salon. Surprise, elle trouve Eugène.
Monsieur, vous désirez ? Mademoiselle, je suis venu apporter ce paquet à ma tante Émilie. Je vais la faire venir, mais si vous permettez, avant, je vais chercher quelque chose.
Agathe, sans faire plus attention à Eugène, cherche le carnet. Lui la suit des yeux et la trouve très belle. La tante, dans l'encadrement de la porte, les épie et entre. Et fait la surprise, sourit, tend les bras et dit
« Que fais-tu là, Eugène ?»« Ma tante, ma mère m'a dit de venir t'apporter ce petit paquet. »
Il lui tend un petit paquet dans du papier de soie. Elle le regarde.
« Merci. »
Puis, elle se tourne vers Agathe.
« Mademoiselle, je vous présente mon neveu, Eugène. »
Monsieur et Agathe sortent de la pièce.
Comment la trouves-tu ?
Elle est très belle.
Je te l'avais dit.
Allez, maintenant, il te faut partir. Tu remercieras ta mère pour moi. Et elle leur accompagne.
Au revoir, ma tante.
Au revoir, Eugène. Et vite, elle court rejoindre Agathe à la bibliothèque. Ou comme chaque matin, avant d'aller à l'université, elle étudie. Elle retrouve Agathe, qui est déjà à sa table en train d'écrire. Elle s'approche d'elle.
Il faut m'excuser, mademoiselle. J'espère que ça ne vous a pas gêné que mon neveu soit venu me voir.
Je n'ai pas trouvé votre carnet, Émilie.
Vous savez, c'est un garçon sérieux, gentil, pas comme ceux de la soirée.
Il poursuit ses études et sera ingénieur des mines.
Comment l'avez-vous trouvé ?
Bien. Émilie est surprise, mais elle se dit
« Bien sûr, elle n'a pas eu le temps de bien le voir. »
Émilie est assise dans le bureau de l'oncle et prépare les cartons d'invitation pour encore une soirée. Elle tient une enveloppe entre ses mains et hésite, soupire.
Je me lance. De toute façon, avec ce monde, il sera même pas vu. Et marque l'adresse de son neveu. Toute tremblante.
Oui, tout de suite, madame.
Elle observe les entrées des invités. Agbert est de l'autre bout de la pièce. Elle est assise avec Jean-Jacques.
Je travaille à Ladies Week.
C'est un garçon de 20 ans, grand, maigre, blond, un peu filasse. Il séduit des filles de la haute en les faisant rire. Et il est toujours au buffet. Enfin, il arrive. Elle a le corps qui bat.
C'est à moi, c'est mon argent.
Jeune a l'air timide. Il ne sait que faire. Il est ici dans un coin tranquille du salon, sur une chaise. Une grosse femme s'est assise à côté de lui et mange un morceau de glace.
On pourra admirer d'ici une vraie démonstration des prodiges
pyrotechniques. Eugène regarde Agathe, toujours avec Jean-Jacques.
Être plus cher encore. Des feux qui prendront la forme de koala.
Et Jean passe à côté de lui.
De milliers de boomerangs.
Certains cherchent même à lui parler, mais il reste fermé. Cela triste et mignon.
Mais qui donc est ce garçon?
Archie Ewens, le fils de notre lingère, c'est toi qui les as invités, avec tes idées démocratiques idiotes. Pire encore, tu avais la bêtise d'inscrire Ben dans une école d'État.
Oh, bonsoir. Luigi, chérie, tu te souviens du charmant ami de Ben dans cette délicieuse école? Neil, c'est...
Deux heures plus tard, Eugène est dans sa chambre, couché, et se dit que ce n'est pas un monde pour lui. Agathe lui semble aussi inaccessible qu'une étoile. Émilie est chez sa sœur. Elles sont toutes deux dans la salle à manger. Denise lui dit « Qu'est-ce que cette histoire de vacances? Nous ne sommes jamais partis en vacances, nous. Les vacances, c'est pour les riches. Et Biarritz !» Elle loue ses épaules. « Mais c'est moi qui paye le séjour à Eugène. J'ai bien le droit de payer des vacances à mon neveu, tout de même. Je lui payerai tout. La chambre, l'hôtel, la pension, absolument tout. Mais avec quel argent? J'ai un peu d'économie. Garde donc ton argent quand tu seras vieille. Pourquoi faire? Quand je serai vieille, je n'aurai besoin de rien. Eugène, lui, a besoin de vacances. Et puis, j'ai bien le droit de faire un cadeau à mon neveu. Bien, bien, j'accepte. Mais ne le fais pas trop rêver. Même jour, la tante, Agathe et le neveu, mais lui n'était pas dans le même compartiment.
elle a trouvé une petite chambre meublée pour Eugène chez des particuliers qui lui font aussi une pension. La tante et Agathe sont dans un luxueux hôtel près de la plage et aussi dans le même hôtel, Jean-Jean. L'après-midi, Agathe et Émilie vont à la plage. Agathe se baigne et retrouve quelques connaissances, dont Jean-Jacques. Un après-midi, alors qu'elle se bronze, Émilie lui amène Eugène. Agathe, je crois que vous connaissez mon neveu, Eugène. Oui, bien sûr. Il me semble l'avoir déjà vu. Bonjour. Vous êtes en vacances ici, vous aussi? Oui, mademoiselle. Je suis en pension. Vous êtes seule? Oui, enfin, à part ma tante. Venez vous distraire avec nous. Tenez, asseyez-vous. C'est ce qu'il fait. Je vous présenterai quelques amis. Ils nous feront un peu de polo et des sorties. Émilie jubile. Un quart d'heure plus tard, Agathe est appelée par Jean-Jacques et d'autres pour jouer dans la mer. Elle invite Eugène. De ce jour, Eugène fait partie de la bande. Il est un peu triste car il voit qu'Agathe ne fait pas plus attention à lui qu'aux autres. Mais lorsqu'il voit la tante, cela change. Elle lui présente les choses d'une autre façon. Elle lui dit qu'Agathe lui a parlé de lui. Alors, il se met à rêver qu'elle l'aime. Et lui l'aime de plus en plus de jour en jour. En réalité, Jean-Jacques est plus le cavalier servant d'Agathe. Après s'être amusé à une soirée, Agathe n'a pas été raccompagnée par Jean-Jacques. Il a voulu en raccompagner une autre. Eugène a été triste durant toute la soirée parce qu'elle n'a pas fait attention à lui. Alors il est parti avant la fin de la soirée. Le corps gros, il est parti en avant, avant la fin de la soirée, et est allé se promener sur la plage. Les mains dans les poches, le vent décoiffe ses cheveux. Tout à coup, il voit qu'il court à lui, Agathe, ses chaussures à la main, la mine défaite. Arrivée vers lui, elle jette ses chaussures sur le sable et se jette à son cou. Pourquoi es-tu parti si vite? Je ne sais pas. Embrasse-moi, Eugène. C'est ce qu'il fait. Elle le tire à lui et s'allonge sur le sable. Il est sur elle et continue à l'embrasser. Ensuite, ils se sont allongés l'un à côté de l'autre. Elle lui dit, toi au moins tu m'aimes. Puis, ils ont passé toute la nuit sur la plage à marcher, parler. Il lui a dit ses projets, son affection pour elle. Elle lui a parlé de sa vie, de ses passions, de ses parents. Puis, après un long baiser, ils sont repartis en se donnant rendez-vous pour le lendemain. Eugène est fou de joie. Il pense que la tante avait raison. La tante apprend par le jeune homme. Leur soirée, elle est heureuse, comme si c'était la jeune fille ou le jeune homme. Elle vit un grand amour par procuration. Elle ne regrette pas toutes les dépenses qu'elle fait pour son neveu. Cela la ruine, car il doit suivre la jeune fille et la bande, ce qui veut dire une garde-robe importante, des loisirs coûteux, la pension, etc. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, rêveuse Émilie, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.